Ce matin, je voudrais que nous puissions peut-être justement nous questionner sur la qualité de notre vie de disciple. Vous savez, c'est quoi un disciple? Quelqu'un qui suit un maître. C'est important quand même de ne pas dire quelqu'un qui suit n'importe quoi. Le mouton de Panurge, je suivais les moutons. Mais seulement le problème, c'est que les moutons étaient en train de partir pour tomber dans l'espèce de, je sais pas moi, le gouffre là. Et le mouton, lui, l'a suivi et ouf, il est tombé. Non, nous suivons un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait ce qu'il fait, qui a la maîtrise de la chose qu'il fait. Un maître, c'est quelqu'un qui sait où est le chemin et qui conduit le disciple vers un chemin précis. Nous sommes, en tant que chrétiens, des disciples. Et ce matin, merci beaucoup. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions aborder cet aspect-là. Quelles sont certaines exigences qui apparaissent au travers du texte que j'ai parcouru dans ma Bible, sur lequel je me suis arrêté? Quelles sont les exigences qui se dégagent? Trois exigences pour être un bon disciple. Mais commençons par prier pour remettre tout ça entre les mains de Dieu. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans nos vies. Ces vies que tu transformes. Ces vies que tu régénères. Ces vies que tu prends en charge. Merci de faire chemin dans nos vies avec nous. Merci de nous conduire vers une maturité de plus en plus grande. Merci de nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints. Merci de nous rendre capables ici et maintenant de te servir en te connaissant toujours plus profondément. Éclaire-nous encore avec ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 9, je propose la lecture du verset 57 au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Trois paroles de Jésus, trois réponses qui posent trois exigences quant à être un bon disciple de Jésus-Christ. Ce texte évoque le déplacement de Jésus de la Galilée vers Jérusalem. Jésus est en chemin. Il sait qu'il est en train d'aller vers Jérusalem. Il est en chemin et son timing est compté. Il n'a pas du temps à perdre. Il avance, il va vers ce pourquoi il est venu sur la terre. Il n'a pas donc du temps à perdre, ce qui veut dire que chaque parole est essentielle. Chaque acte va droit au but. Et vous savez que ce chemin n'est pas un chemin vers lequel il va pour quelque chose de meilleur, quelque chose de magnifique pour lui. C'est un chemin qui va le conduire droit à Golgotha, vers la mort. Heureusement, vers la résurrection. Ce n'est pas donc un destin au sens personnel égoïste de Jésus, un destin glorieux. Non, c'est un rendez-vous avec la souffrance, avec la mort. C'est ce chemin que Jésus fait. Il va vers plus de souffrance. Il va vers la mort. Et lorsque Jésus parle à ses interlocuteurs, dans ce texte en tout cas, lorsqu'on voit les réponses de Jésus, on sent que Jésus veut les interpeller. Jésus veut les faire réfléchir. Jésus veut leur montrer la réalité du chemin qu'il poursuit avec eux. Il ne veut pas les laisser dans l'ignorance, dans le fait de ne pas savoir c'est quoi finalement ce chemin qu'il fait avec eux. Jésus ne ment pas quant à la finalité du chemin. Jésus a toujours dit et prévenu sur la dimension de la vie chrétienne. Juste une parenthèse pour dire que c'est peut-être là le lieu de se rendre compte que finalement la vie chrétienne, ce n'est pas comme on nous l'enseigne parfois, ou comme on l'entend parfois, comme on le lit parfois, où on dit « Venez à Jésus, terminé, vos souffrances sont finies, vous êtes très heureux. Désormais, la vie est une eau, un fleuve, un long fleuve tranquille. » Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un chemin en vue de bâtir quelque chose d'autre. Parce que derrière la mort, il y a la résurrection. Derrière la mort, il y a le commencement d'un autre monde. Il y a le royaume de Dieu qui se met en route. Il y a le commencement de quelque chose d'autre. Mais cette chose qui commence par la mort. Comme si Jésus leur disait, écoutez, si vous faites le choix de me suivre, si vous faites le choix d'être mes disciples, on a dit que le disciple c'est quelqu'un qui suit un maître. Si vous faites le choix de me suivre, alors soyez au clair avec votre choix, soyez au clair, soyez sérieux avec votre choix. Je pense à la suite de ce texte, et rien que dans ces aspects que j'aborde encore en introduction, je pense que effectivement la vie chrétienne est une marche où nous sommes en chemin avec Jésus, où tout en cheminant avec lui, nous apprenons de lui, nous grandissons à ses côtés, nous devenons, nous acquérons sa stature en quelque sorte, nous lui ressemblons progressivement. C'est ça la finalité de la vie chrétienne, le grand rendez-vous étant l'éternité avec lui. Nous cheminons donc avec Jésus vers la mort, la résurrection, vers la vie éternelle, dans la vie éternelle. Mais, vous l'avez compris, la vie chrétienne n'est possible, n'a du sens que si nous suivons Jésus, si nous marchons à sa suite, c'est-à-dire si nous sommes des disciples. D'ailleurs, un chrétien, la première définition du mot chrétien, c'est pas un qui croit, c'est pas un qui a la tradition familiale chrétienne. Parfois, je souris lorsque je vois ces islamistes qui coupent la tête d'un chrétien en disant « nous voulons tuer les chrétiens ». Ils prennent un pauvre gars et ils lui tranchent la tête parce que c'est un chrétien. Mais si les islamistes s'étaient donné le mal, le temps de venir visiter nos pays et de voir que parmi les Européens, les Américains, etc., il y en a qui ne sont pas du tout chrétiens, qui sont même hostiles à la foi chrétienne. Donc on va décapiter quelqu'un parce qu'on croit que c'est un chrétien. Mais peut-être c'est un athée, peut-être c'est quelqu'un qui n'en a rien à cirer de la foi chrétienne. Non, un chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est ça la définition du chrétien. Un disciple de Jésus. Quelqu'un qui a tout abandonné, a renoncé à tout pour suivre Jésus. Quelqu'un qui s'inscrit dans l'école de Jésus. Qui commence comme un petit enfant qui va dès l'école maternelle, dès l'école primaire, qui apprend de ses enseignants. Jusqu'à ce qu'ils sortent de là formés. Vous savez qu'intellectuellement parlant, les étudiants qui ont été formés dans une école dans une université sont reconnaissables. Vous savez ça. Dans les discussions entre les gens qui ont été formés dans des différentes écoles, il est facilement possible de reconnaître quelqu'un qui sort de l'UCL ou quelqu'un qui sort de l'ULB ou d'une autre université, rien que par la façon dont il tient son raisonnement. Parce qu'il y a du formatage. Rien à faire. Un disciple, c'est quelqu'un qui est formaté par le Maître, par le Seigneur Jésus-Christ, en vivant à ses côtés, en cheminant avec lui, en apprenant de lui. Et en tant que disciple, nous sommes donc en chemin avec Christ, en route vers l'éternité, et ce texte nous invite à réfléchir justement sur cette question. Comment assurer une bonne marche? Comment être un bon disciple? Comment marcher à la suite de Jésus sur ce chemin, sur le chemin? Et je vous ai parlé de trois exigences à travers trois paroles de Jésus. Et nous allons les évoquer maintenant. Première réponse de Jésus, le verset 58. Jésus leur répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Cet homme qui est venu vers Jésus pour lui dire, « Je te suivrai, Seigneur, où tu iras », était sûrement sincère. Ce n'était pas une démarche de quelqu'un qui est opportuniste, mais c'est quelqu'un qui voulait vraiment, qui voulait sincèrement dire ce qu'il avait à dire. Mais cependant, il faut constater une chose dans ce que dit Jésus. C'est la vérité. Jésus n'avait pas d'âne comme moyen de transport, chameau, peu importe. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de biens propres. Jésus sur la terre n'avait rien. Donc ce qu'il dit est vrai, il n'a rien. Non seulement Jésus n'avait pas de biens, mais Jésus n'était pas là non plus pour proposer la sécurité matérielle aux gens. Il n'était pas là pour proposer le confort matériel à ceux qui le suivent. Il n'a jamais dit, venez, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai des moyens de transport. Non, il n'a jamais dit ça. Il ne les a jamais appelés avec cette finalité-là. Jamais. Jésus n'est pas là pour proposer cela. C'est un peu ce qu'il voulait faire entendre comme message à cet homme. Il dit, je ne suis pas là pour t'enrichir, te rendre plus heureux sur cette terre, pour vivre une vie heureuse au sens social, humain de cette société. Si tu ne me suis pas pour être riche, tu ne me suis pas pour être dans le confort, tu ne me suis pas pour réussir selon le critère de ce monde. Si tu me suis, tu dois réfléchir. Ainsi, on peut voir que l'enjeu de la vie d'un disciple, ce n'est pas une religion, une pratique religieuse. Ce n'est pas le fait de respecter un ensemble de rites et d'observances. Ce n'est pas du tout ça, l'enjeu de la vie d'un disciple. Ce n'est pas non plus le fait de chercher à accéder à une zone de confort pour être mieux. Vous savez, moi je suis un peu furieux aujourd'hui avec cette théologie de la prospérité qui appelle les chrétiens à se convertir pour être mieux, pour avoir plus, pour être béni, de manière tellement visible que tout le monde puisse dire « Waouh ! Depuis que cette personne est devenue chrétienne, waouh quoi ! Elle a de grandes maisons, elle a une belle voiture, etc. » Je suis vraiment farouchement opposé à cette idée et à ce genre de projet théologique parce que c'est contrairement à la pensée même de Jésus, c'est contraire à la Bible. On peut même aller plus loin. Je dirais que le cheminement avec Jésus nous entraîne loin de nos conforts, au-delà de nos peurs, de nos insécurités. Vous savez, Jésus dit une chose à cet homme. Il dit, si tu me suis, comme la plupart des gens qui suivent parce qu'ils veulent un confort matériel, si tu me suis pour avoir des biens, pour être riche, détrompe-toi. Moi, je t'emmène là où tu vas véritablement découvrir la pauvreté. Le contraire, tu vas découvrir ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté matérielle. Même la pauvreté spirituelle. L'indigence, le désert, le vide, le rien. Pourquoi ? Parce que ce n'est que comme ça que je peux alors me vider de mon orgueil. Je peux me vider de moi. Je peux me vider de tout ce que je suis. Et je peux laisser la place à Dieu. Je vais donc, je chemine avec Jésus. Et en cheminant vers Jérusalem, je vais vers ma propre mort. Mais je vais pour me retrouver avec moi-même dans une autre vie. Souvenez-vous, l'appel que Dieu fait à Abraham. C'était magnifique ce que nous avons entendu dimanche passé. Va vers toi-même. Va vers ce pourquoi je t'ai créé. Va vers ton accomplissement. Mais le chemin à suivre est un chemin où nous devons vaincre nos peurs, nos préjugés, nos a priori, nos propres insécurités pour aller de l'avant. Première exigence, waouh, j'ai mis quand même du temps pour en parler. Première exigence, la vie d'un disciple, le disciple doit apprendre à vivre sous la dépendance de Dieu. C'est pourquoi il doit apprendre à renoncer au confort matériel. Il ne doit pas tenir compte du confort matériel dans sa marche avec le Seigneur. Il ne doit pas avoir comme finalité, avec Dieu, je vais m'enrichir. Je deviendrai meilleur, j'aurai plus de biens, j'aurai plus de choses. Jésus montre l'exemple, il n'a rien parce qu'il dépend entièrement de Dieu. Il dépend entièrement des autres. Si je veux être un disciple pour le Seigneur, je dois me défaire de mes ambitions terrestres. Je dois apprendre à dépendre de Dieu, à être pauvre pour que Dieu comble ma vie. À ne plus avoir des solutions à moi pour que Dieu trouve des solutions pour moi. C'est un exercice spirituel, pas facile. Je vous laisse ça. Demandez au Seigneur, prions ensemble. Seigneur, aide-moi à être pauvre afin que tu me remplisses. Deuxième parole de Jésus, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Cet homme qui vient est sûrement aussi sincère comme l'autre. Et en plus, c'est Jésus qui l'appelle, qui lui dit, suis-moi. Donc Jésus a sûrement vu chez cet homme une potentialité à le suivre. Mais cet homme donne une condition. Oh oui! Attends, Seigneur, moi, je fais tout ce que tu veux. Mais il y a un devoir funéraire. Il y a des obligations familiales en termes d'enterrement. Je fais d'abord ça et je viens après te voir. Mais de quoi parle Jésus ici, à ce verset 60? Jésus parle de l'urgence de la proclamation de l'Évangile, de l'urgence de travailler pour le royaume de Dieu, pour tout disciple. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, toi, disciple, toi qui me sers, toi qui marches à ma suite, ton urgence, ta priorité, c'est de proclamer l'Évangile, c'est de partir, d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que Jésus méprise-t-il le devoir familial, d'enterrer ses parents, etc. Est-ce que Jésus dit que si quelqu'un meurt aujourd'hui, il est de ma famille, je dois dire non, 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 je ne vais pas vous enterrer, vous, parce que moi, en tant que disciple de Jésus, je vais aller d'abord servir. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il ne méprise pas cela. Mais il met l'accent sur le fait que la tâche des gens spirituellement morts est celle de s'occuper des œuvres par rapport qui ont un rapport avec la mort. Mais la tâche de ceux qui sont spirituellement vivants, c'est-à-dire les disciples, c'est de s'occuper des œuvres en rapport avec la vie éternelle, avec le royaume de Dieu. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour dire que quelque part Jésus est en train d'attirer l'attention sur le fait de s'attacher à tout ce qui conduit à la mort, à tout ce qui est morbide. Chacun de nous peut évaluer dans sa vie combien de fois nous ne perdons pas le temps à nous engager dans des œuvres de la mort, c'est-à-dire des œuvres qui sont improductives pour l'avancement du royaume de Dieu. Combien de fois nous ne faisons pas des choses en le sachant bien, ou peut-être pas, mais combien de fois on ne perd pas le temps à faire des choses qui ne rapportent rien pour l'avancement du royaume de Dieu. Je précise, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir du loisir. Je peux avoir mon loisir de regarder Derrick. Ben, c'est fini maintenant cette série. Hein. Il paraît qu'il est décédé, le monsieur, hein. Je sais pas. Je dis ça comme ça. J'ai donné l'exemple de Derrick, même. Enfin, voilà. Je ne regardais pas beaucoup, mais enfin, voilà. Donc, je peux avoir mon loisir de regarder Derrick, et franchement, c'est pas Derrick qui va m'emmener au ciel, hein. Vous êtes d'accord, hein? Il m'emmènera peut-être pas en enfer, mais enfin, il va quand même me distraire pas mal. Oui? Bon. Mais, ce n'est pas que je suis en train de dire qu'il faut plus rien faire. Il faut être tout le temps en train de faire pour le Seigneur. Non. Je suis en train de dire ceci. Qu'est-ce qui est en urgence dans mon cœur? Vous savez, un urgentiste dans l'hôpital, il va être chez lui à la maison ou dans une cabine à l'hôpital. Il va avoir peut-être son temps de repos parce qu'il est peut-être fatigué. Il va peut-être être en train de regarder son film, peut-être en train de ranger des choses, d'étudier peut-être. Mais il est toujours prêt. Dès qu'il y a un besoin, on l'appelle, il vient tout de suite intervenir. C'est son boulot. Les chrétiens doivent prendre toute la mesure de l'urgence de proclamer l'Évangile et se mobiliser dans leur vie de manière à ce que l'Évangile, on soit toujours prêt à travailler à la faveur de l'Évangile dès que cela nous est requis. Être prêt à tout moment et faire en sorte que ça devienne quelque chose d'urgent dans notre vie, de sorte que dès qu'il le faut, on dégage tout ce qu'il faut et on fait d'abord ça. C'est la priorité. Sortons de la morbidité. Réfléchissons chaque fois à est-ce que c'est une œuvre qui m'entraîne qui est en rapport avec la mort, avec la séparation spirituelle avec Dieu, avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ou bien est-ce en rapport avec quelque chose qui glorifie Dieu? Mes enfants souvent écoutent de la musique, et je fais partie des parents qui n'interdisent pas aux enfants d'écouter toutes les musiques. Au début, j'ai commencé par là, j'ai voulu qu'ils n'écoutent que de la musique chrétienne. Et puis j'ai dit, je suis quand même de mauvaise foi en faisant ça, parce que moi, je suis exposé à la radio 24 heures, dès qu'il y a une radio et que je suis en déplacement ou peu importe, je suis exposé avec la musique du monde chaque jour. Pourquoi pas eux? Et puis, comme disait Paul, il y a certains musiciens qui ne chantent pas que des bêtises. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Et donc, j'ai dit, pas de problème, vous écoutez la musique, vous mettez votre filtre pour quand même que les paroles que vous ne comprenez pas, vous essayez quand même de savoir de quoi on parle. Parce que si on comprend face à Satan et Dieu, vous soyez quand même assez avisé pour dire, ouh, stop, pas ça. Ok? Je leur ai dit, écoutez la musique du monde, mais analysez, mettez des filtres. Cependant, il est arrivé qu'un de mes enfants commence à n'écouter que du rap. Ou, allez, parce que du rap, il va se sentir concerné direct. Non, je ne vais pas dire ça. Il écoute de la musique, mais que de la musique dans un style précis. À un moment donné, je lui dis, mais écoute, il faut que tu arrêtes de faire ça. Je suis d'accord que tu écoutes la musique que tu veux, mais tu dois te donner comme discipline d'avoir une plus grande proportion de musique chrétienne et peu de musique de ce genre-là. Pourquoi ? Parce que ce que j'écoute finit par m'influencer. Oui ou non ? On finit par ressembler à ce qu'on fréquente le plus possible. Que ce soit à travers la musique, à travers ce que j'écoute, à travers ce que je vois, à travers ce que le milieu que je fréquente, je finis par ressembler aux gens que je fréquente ou au style que je fréquente. Et si je mets 80% de la musique chrétienne, eh bien, ça va m'emmener à garder cette proximité avec la foi chrétienne. Mais si je mets 80% de la musique du monde et 20% de la musique chrétienne, j'aurai une proximité qui sera quand même plus grande avec d'autres types de musique. Et pour peu que ce ne soit pas des musiques avilissantes ou des musiques déprimantes. La morbidité nous côtoie tous. À nous de faire l'analyse et de faire le choix et de garder l'urgence pour le Seigneur. Deuxième exigence. Un disciple doit prendre en considération l'option pour l'urgence de la proclamation de l'Évangile et organiser sa vie comme un urgentiste qui fait tout ce qu'il veut à faire, mais qui n'oublie pas que dès qu'il y a le besoin, il y va. Qui organise sa vie de manière à ce que l'Évangile, la proclamation de la parole de Dieu, le service pour Dieu ne soit jamais pénalisé dans sa vie. Troisième exigence, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus présente la vie du disciple comme étant un choix définitif. Vous savez, quand vous prenez, quand ma femme est venue me rejoindre en Belgique, elle n'a pas pris un billet aller-retour. Elle a pris un seul billet, le billet aller. Ouais, bon. En fait. Pour la petite histoire, c'est à l'époque, c'était pas requis d'avoir un billet, un simple aller. Hein. C'est toujours un aller-retour. Hein. Bon, voilà. Les exigences diplomatiques avec les visas et machin comme ça. Mais quand même, dans sa tête et dans son cœur, elle avait pris un billet aller. D'ailleurs, la preuve, on a vendu le retour. Hein? Voilà, on l'a liquidé. Elle est venue pour me rejoindre, il n'y avait pas l'option. Il ne s'agissait pas de dire, je vais voir un peu à quoi ressemble cet homme, je vais voir à quoi ressemble cette vie avec lui, je vais voir à quoi ressemble cette vie en Europe, et puis après, ça ne va pas, je me barre, je retourne chez moi. Il s'agissait d'un choix définitif. Et vous savez, lorsque je fais un choix définitif, lorsque je décide d'aller et de ne pas retourner, d'aller prendre un aller simple, je dois vérifier que ma motivation pour cet aller simple est vraiment fondée. Est-ce que je suis sérieux avec cette histoire? Est-ce que je suis clairement au fait que c'est pour toujours? Je dois pouvoir être conscient de ce que je fais. Je dois analyser sérieusement les risques que je prends. On ne s'engage donc pas à la légère. On ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de deux images dans la Bible avec des personnes qui se sont retournées en arrière. La première image, la femme de Lot, c'est le feu derrière. Les anges sont occupés à assurer leur sécurité pour qu'ils puissent s'enfuir. La femme de Lot va quand même encore se retourner, regarder en arrière, alors que l'ordre de Dieu était de ne pas se retourner. Et elle va être transformée en sel. Deuxième exemple, c'est le peuple d'Israël. Sous le feu de menaces, ils se mettent à engueuler Moïse. Et ils commencent à regretter les concombres d'Égypte. Nous étions quand même bien là-bas. Esclaves, mais on mangeait à notre faim. Esclaves, mais pas embêtés. Deux images de personnes qui regrettent, qui font marche arrière. Et ici donc, Jésus montre cette idée que on s'engage avec lui, on s'engage pour toujours. On prend le risque pour toujours. Je vais plus loin. Vous avez remarqué qu'il s'agit de la charrue. On parle donc du travail qui consiste à labourer la terre. Vous savez que labourer veut dire travailler. Vous saviez ça? Et vous savez que travailler, ça veut dire produire un effort qui occasionne de la souffrance, de la peine. C'est ça, travailler. Et quand on travaille la terre, c'est pour la préparer à quoi? À la semence. C'est ça l'idée. On travaille la terre pour que la terre soit propre à recevoir la semence. Voyez, Jésus n'est jamais loin des réalités spirituelles. Notre tâche est de travailler la terre. Notre tâche est de préparer le terrain pour la semence. Travailler. Vous vous souvenez, lors d'une prédication, j'avais parlé de travailler à notre salut. Et j'avais donné les deux choses qu'il ne faut pas faire. Travailler dans les murmures et travailler... j'ai oublié l'autre. Et ici, véritablement, c'est cette idée qui est là. Nous sommes là pour travailler dans nos vies, travailler la terre que nous sommes, pour que la semence puisse germer dans les meilleures conditions. Idem, notre tâche en tant que disciples est de préparer le terrain pour la semence. Préparer le terrain dans les vies des gens. Labourer la terre. Souffrir. Peiner pour que d'autres puissent voir la semence de la parole de Dieu s'implanter dans leur vie. Travailler la terre. À travers nos prières pour, en faveur de la conversion des gens. Travailler la terre à travers notre témoignage qui puisse donner accès à ce que la personne se convertisse. Travailler la terre à travers toutes sortes de services que nous désirons rendre pour que cette personne-là connaisse la parole de Dieu. Travailler la terre à travers la présentation de l'évangile. Parfois, la personne va rejeter cet évangile une fois, va peut-être la rejeter deux fois. Mais c'est quelque chose qui est là, qui se travaille dans sa vie. Et c'est nous qui œuvrons avec le Saint-Esprit pour cela. Troisième exigence, dernière exigence, être disciple, c'est faire l'option de s'engager définitivement, sans retour, sans regret, jusqu'au bout. C'est ça la fidélité. Être fidèle, c'est s'engager jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est l'option de s'engager définitivement pour un travail de terrain à conquérir, à gagner. Un travail pour que la semence de la parole de Dieu puisse être plantée. Ça, c'est le travail du disciple. Voilà. trois exigences que j'ai voulu mettre devant nous en tant que disciples. Ceux qui ne sont pas encore des disciples de Jésus, peut-être c'est l'occasion de réfléchir à est-ce que je suis disciple? Si je ne le suis pas, comment est-ce que je peux devenir disciple? Trois exigences pour être un bon disciple. Ne pas apprendre à vivre sous la dépendance de Dieu en refusant le confort matériel, en refusant la philosophie de ce monde. Deuxième exigence, prendre l'option pour l'urgence de la proclamation de l'Évangile dans notre monde. Troisième exigence, s'engager définitivement sans retour, s'engager pour travailler à l'avantage du salut des âmes, à l'avantage de l'avancement du royaume de Dieu à travers la semence que je voudrais voir s'implanter dans les vies des autres. Prions. Seigneur, nous voyons, Seigneur, ce que tu nous enseignes, mais la pratique est toujours aussi parfois éloignée de la réalité que nous entendons, aussi impacte ta parole dans nos vies, imprègne ta parole dans nos vies, prolonge la réflexion avec nous. Nous voulons être des bons disciples pour toi. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons faire ce chemin avec toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons être des chrétiens à ta ressemblance. Alors, visite-nous par le Saint-Esprit. Parle encore à nos cœurs et enseigne-nous encore plus. Au nom de Jésus. Amen.